Vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h pour votre magazine d'information, Nawal El Amouchiche. Nouvelle journée meurtrière à Gaza. 62 personnes ont été tuées par des frappes et des tirs israéliens aujourd'hui, selon la défense civile. La guerre se poursuit en Ukraine. Au moins 5 personnes ont été tuées et 23 autres blessées aujourd'hui dans un bombardement russe sur la ville ukrainienne de Samar, dans le centre-est du pays. En France, avec des températures attendues jusqu'à 40 degrés et des risques sévères d'incendie, la canicule s'est abattue aujourd'hui sur le sud du pays où 4 départements sont en vigilance orange. Une canicule qui s'étendra demain à une large partie du sud-est, voire au-delà des prochains jours. Dans notre point actualité, tout d'abord, la bande de Gaza a vécu une nouvelle journée meurtrière. 62 personnes ont été tuées par des frappes et des tirs de l'armée israélienne, selon la défense civile. Et 2 membres de l'ONG Action contre la faim sont morts hier dans la bande de Gaza, tués par une frappe israélienne dans une zone très peuplée, selon l'organisation. Et Médecins sans frontières a appelé aujourd'hui au démantèlement de la Fondation humanitaire de Gaza, la GHF, et a dénoncé ce dispositif comme étant, je cite, « un simulacre de distribution alimentaire qui engendre des massacres en série ». Toujours au Proche-Orient, l'Iran tiendra demain à Téhéran des funérailles nationales qualifiées d'historiques pour les hauts gradés scientifiques liés au nucléaire qui ont été tués lors de la guerre de 12 jours déclenchée par Israël. Et sur la reprise des négociations sur le nucléaire avec les États-Unis, l'Iran a affirmé hier qu'aucun plan n'existait encore, contrairement à ce qu'avait annoncé Donald Trump. Au Liban, une femme a été tuée et 20 autres personnes ont été blessées aujourd'hui dans une frappe israélienne visant le sud du pays. Et ceci malgré un cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Hezbollah. En Ukraine, au moins 5 personnes ont été tuées et 23 autres blessées aujourd'hui dans un bombardement russe sur la ville ukrainienne de Samar, dans le centre-est du pays. Et dans un tout autre volet, en France, un drame s'est déroulé hier soir. 3 jeunes, dont 2 enfants de 7 et 8 ans et un homme de 17 ans, sont morts hier soir dans un accident de la route à Montauban de Bicardie, dans la Somme. Le conducteur, âgé de 17 ans, a lui été hospitalisé en urgence absolue. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule, selon la gendarmerie. Le conducteur, qui est le frère des 2 enfants victimes de 7 et 8 ans, une enquête a été ouverte. Et toujours en France, 13 départements seront en vigilance orange canicule demain, selon Météo France, qui prévoit un épisode caniculaire précoce dont la durée et l'extension géographique vers le nord nécessitent une vigilance particulière. 4 départements du sud de la France, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône, sont placés aujourd'hui en vigilance orange canicule. Ils seront rejoints à partir de demain midi par le Var, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, l'Ardèche, la Drôme, le Rhône et l'Isère. C'est la fin de votre point actualité. Place à présent aux principaux dossiers de votre magazine d'information. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place maintenant au tour d'horizon de l'actualité. Et on débute par l'actualité au Proche-Orient. Après le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, quelles conséquences sur le programme nucléaire iranien et quel est l'impact de la suspension de l'Agence internationale de l'énergie atomique? Je vous propose d'écouter Fatima Moussaoui, docteur en sécurité internationale.
Le but explicite des frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes et d'éradiquer ce programme nucléaire par voie de force et rapidement après l'assaut israélien. Il est important de noter que les négociations diplomatiques s'étendent sur une durée prolongée, tandis que les actions militaires se déroulent sur une période plus courte, visant à obtenir rapidement un résultat. Ces deux outils sont employés par les États dans un équilibre, leur permettant de progresser sur la scène mondiale, afin de se positionner en tant que puissance régionale ou internationale ou pour accumuler des gains en termes d'influence. Donc, les puissances occidentales ont vu leur légitimité diminuer par ce qui se passe, étant donné que le droit international a été transgressé par la décision d'intervention militaire. De plus, face à la montée des conflits, les nations européennes se sont retrouvées déconcertées. Bien que ces attaques entraînent des dégâts considérables et paralysent ces installations, elles influencent également le fonctionnement et l'exécution de la stratégie politique et sécuritaire iranienne pour préserver son régime et la souveraineté de ses territoires. Au niveau des perceptions, l'Iran sort gagnant et a la possibilité de lancer une narrative lui permettant de renforcer sa position géostratégique, étant donné qu'il a été attaqué et a riposté. Il est important de noter que l'Iran est un pays fragile, avec un régime obsolète, et sa force se trouve dans sa capacité de résistance.
Et Fatima Moussaoui, quel est l'impact de la suspension de la coopération de l'Iran avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique ?
Il convient de noter que cette suspension d'accord découle de cette décision militaire. En effet, ce qui découle de cette suspension de coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est une prise de conscience sérieuse que l'Iran ne dispose pas véritablement d'alliés stratégiques ou que ses alliés stratégiques ne sont pas aussi investis qu'ils pourraient le souhaiter. Il ne faut pas donc s'étonner si Téhéran décide de poursuivre son projet nucléaire, voire décider vraiment de fabriquer la bombe nucléaire, qu'il y ait ou non un accord avec les Occidentaux sous ce régime de Wilayat al-Faqih ou sous un autre régime laïque, peut-être laïque. L'histoire de l'Iran reflète cette aspiration perse à restaurer sa force régionale d'autrefois. Et surtout maintenant, avec ce contexte de guerre, d'avoir une arme de dissuasion nucléaire. En fait, l'Occident persiste à inciter l'Iran à s'armer à travers des politiques dépourvues de sens. À mon avis, cela découle d'une méconnaissance de l'histoire de ce pays et est également influencé par des intérêts politiques intérieurs pour certains acteurs engagés dans la structuration du panorama géopolitique du Moyen-Orient.
C'était Fatima Moussaoui, docteur en sécurité internationale, au micro de François-Xavier de Calonne. Dans l'actualité en France, alors que les discussions autour de la réforme des retraites n'avancent plus, la CFDT claque la porte des négociations. De son côté, François Bayrou hausse le ton et se dit prêt à trancher pour sortir de l'impasse. On écoute le Premier ministre.
J'ai fait hier le bilan précis des points d'accord et des rares points de désaccord qui restent. Mais ce n'est pas pour relancer des séquences de négociations. Si les organisations veulent s'entendre sur ces points qui restent, ça sera très bien. Si elles veulent en parler pendant quelques jours, ça sera très bien. Mais le gouvernement prendra ses responsabilités. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'accord, et à partir des conversations qui ont eu lieu, mais on voit très bien où sont les différences. À partir de cela, le gouvernement, dans le projet de loi qui sera soumis dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qu'on appelle dans les termes parlementaires le PLFSS, qui permet de financer toutes les actions de santé et de retraite, dans ce cadre-là, il y aura un texte. Qu'il y ait eu un accord préalable, ou qu'il y ait eu seulement les travaux préparatoires à un accord, si les organisations considèrent que ça n'est plus leur heure et qu'il faut trancher, on tranchera. Je n'ai aucun problème avec la décision. Je pense que nous avons montré que la démocratie sociale pouvait défricher le chemin, que la démocratie sociale, syndicats et organisations patronales, pouvait pendant des semaines, 4 mois, se saisir des questions et dessiner des réponses, et en trouver pour la plupart des questions posées. Mais au bout du chemin, la puissance publique, le gouvernement, prendra ses responsabilités, et le Parlement aussi, puisque tout ça sera soumis au Parlement, que ça fera une discussion intéressante, et qu'en tout cas, je n'ai aucun doute que des millions de femmes savent que pour elles, ça a une importance réelle. Des millions de salariés qui travaillent en conditions de pénibilité savent que pour eux, ça va apporter quelque chose. Et au fond, des millions de jeunes qui sont concernés par l'emploi, puisque je pense aussi à sauvegarder le coût de l'emploi, ces millions de jeunes vont attendre ça.
C'était le Premier ministre François Bayrou. Et dans le reste de l'actualité, en France, le député Les Républicains Vincent Jeanbrun, dont le domicile avait été attaqué lors des émeutes de l'été 2023, propose un plan baptisé « Réparer les quartiers, rétablir la République ». Un plan rendu public 2 ans après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre. Le point avec vous, Loïc Barrière.
Il y a 2 ans, Naël, un jeune homme de 17 ans, était tué d'une balle tirée à bout portant par un policier lors d'un contrôle routier. Ce drame, devenu symbole des violences policières, avait déclenché plusieurs nuits d'émeutes à travers la France. Aujourd'hui, alors que 2 juges d'instruction viennent de renvoyer le policier devant les assises pour meurtre, l'ancien maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, avance plusieurs propositions. Son domicile avait été pris pour cible durant les violences. Désormais, mais député LR, il plaide pour la création d'une police régionale calquée sur le modèle des polices municipales. Elle serait chargée de sécuriser les transports, les lycées, les grands événements et les sites touristiques en appui aux forces de l'ordre national. Sur le modèle américain, il propose aussi l'élection des juges. Ces derniers devraient rendre compte de leurs décisions, présenter leur bilan et assumer leur action devant les électeurs. Parmi ses idées, mettre fin aux droit au logement social à vie, interdire le paiement des loyers en liquide, exclure des logements sociaux les familles de délinquants et suspendre leurs prestations sociales. Pour Vincent Jeanbrun, les violences peuvent ressurgir à tout moment, comme lors de la récente victoire du PSG ou lors de la fête de la musique. Il présente son plan comme une main tendue à ceux qui veulent s'en sortir et une main ferme face à ceux qui défient la République.
Et dans un tout autre volet, à l'occasion de la fête du cinéma qui se tient du 29 juin au 2 juillet partout en France, Salma Dakhlaoui a tendu son micro à Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français. On l'écoute.
Alors nous proposons à tous nos adhérents qui sont toutes les salles de France d'organiser la fête du cinéma. C'est le cas, c'est toujours le cas. C'est 5 euros pour tous les âges dans toutes les salles, mais il peut y avoir des suppléments si jamais on va dans une salle technologique avec de la 3D ou avec des fauteuils qui bougent, etc. Mais le tarif de base, c'est 5 euros dans toutes les salles.
Et selon vous, pourquoi le cinéma en salle reste un moment unique, même à l'ère du numérique ?
Parce qu'on vous en offre une expérience que personne d'autre que nous peut offrir. C'est l'expérience de la vision collective. On est tous ensemble dans une salle et on est tous ensemble à éprouver les mêmes émotions au même moment. Au cinéma, pendant qu'on est au cinéma, on ne fait rien d'autre qu'être au cinéma. On ne regarde pas son téléphone, on ne parle pas avec son voisin et on est pleinement dans la vision du film. Alors je les invite à venir se fêter ce 40e anniversaire de la fête du cinéma avec nous, avec les films, avec les autres spectateurs, avec leurs amis et leurs familles, mais aussi des tas d'inconnus qui vont éprouver les mêmes émotions qu'eux au même moment. C'est un moment festif, c'est un moment où tout le monde se retrouve et c'est un moment aussi où il fera frais dans les salles de cinéma alors qu'il peut faire un peu chaud ailleurs et chez soi.
Et enfin, à l'occasion du nouvel an égyrien qui marque le début de l'année 1447 du calendrier musulman, Khaled Bencher, islamologue et président de la Fondation de l'Islam de France, nous explique sa signification. On l'écoute.
Le nouvel an musulman, qui en réalité est basé sur l'année égyrienne ou le calendrier égyrien, qui existait, il faut le dire, un calendrier lunaire bien avant l'Égir. Égir, mot francisé, renvoie à l'exode, la fuite, le déplacement, la migration du prophète de l'islam, constitue globalement en 622. L'année lunaire, parce que le calendrier islamique est fondé sur l'année lunaire, a 354-55 jours, formé d'une douzaine de lunaisons, entre 29 et 30 jours, reste flottante, si je puis dire, sur l'année solaire, ce qui explique pourquoi chaque année, les événements qui ponctuent l'année islamique avancent d'une dizaine de jours. Et cette année, en 2025, nous nous retrouvons avec le premier jour de l'an égyrien, de l'an islamique, un 26 juin. Alors, comme tout cycle, le premier mois de Muharram, qui veut dire grosso modo mois sacré, faisant partie des 4 mois sacrés, les 2 derniers de l'année, donc en l'espèce, ce sont les 2 derniers mois qui se sont écoulés, celui-ci est étonnamment le 7e mois du calendrier lunaire. Comme tout nouvel événement dans la vie des hommes et des femmes, des êtres humains, il y a lieu d'accueillir cet événement avec joie, pour le placer sous de bons auspices, afin que l'année à venir soit une année heureuse, porteuse d'espoir, de bonnes nouvelles, et ô combien nous en avons besoin, eu égard au monde brutalisé que nous connaissons et des peuples entiers qui sont martyrisés de par le monde, soit à cause des conflits, soit à cause aussi des situations climatiques. Donc nous ne pouvons que émettre des vœux de paix intérieure, de paix dans le monde, et aussi de concorde, de justice, de fraternité entre les êtres humains.
C'était Khaled Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France. Et toute la rédaction de Radio Orient souhaite une très belle année hégrienne 1447 à tous nos auditeurs de confession musulmane. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.